Bonjour à chacun. C'est vrai qu'avec les trous sur les bancs, l'impression d'être au mois d'août. Mais, qui n'était pas né en 1990 ? Pour les autres, donc, est-ce que vous vous souvenez de ce que vous faisiez en 1990 ? Alors, pour donner quelques repères, 1990, c'est la Coupe du Monde en Italie. C'est le début de la guerre en Irak. Pour les cinéphiles, c'est... le cercle des poètes disparus, 90. Voilà, c'est ce que vous vous souvenez maintenant de ce que vous faisiez en 90. Moi, je commençais mes études, 90. Voilà. 90-2015, 25 ans. Pour ceux qui ne sont pas nés en 90, ceux qui sont nés avant 90, non, après 90, je vais y arriver, c'est la préhistoire. Pour les autres, voilà, c'est loin, c'est plus ou moins loin. Eh bien, 25 ans, c'est la durée, exactement la durée qui s'est passée entre le moment où Abraham a reçu la promesse de l'Éternel et le début de la réalisation de la promesse. 25 ans. Donc, il s'est passé du temps, 25 ans. Et comme l'a dit Jean-Yves tout à l'heure, la semaine dernière, d'ailleurs, je vais me caler. La semaine dernière, Sébastien a évoqué le moment où Abraham a reçu la promesse. Et nous, ce matin, eh bien, on va voir ensemble la réalisation de la promesse. Avec Sébastien, on a vu les chapitres 12 à 15, et nous, on verra les chapitres 16 à 20. Et la semaine prochaine, André, eh bien, voilà, nous conduira sur le chapitre 21, ou au moment du sacrifice d'Isaac. Voilà. Aujourd'hui, 5 chapitres, la semaine prochaine, 1 chapitre. Je me dis qu'André s'en est bien sorti. Ma difficulté ce matin, du coup, était de choisir un texte qui était représentatif de ces cinq chapitres. Et j'ai choisi le chapitre 17 de la Genèse, donc. C'est un moment clé parce que c'est là où, un des chapitres où Dieu parle à Abraham, mais surtout où Abraham devient Abraham. Donc je vous invite à prendre le chapitre 17 de la Genèse. Alors qu'Abraham avait 99 ans, le Seigneur apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu puissant. Marche devant moi et sois intègre. Je mets mon alliance entre moi et toi. Je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba face contre terre. Dieu lui dit « Pour ma part, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, ton nom sera Abraham. Car j'ai fait de toi le père d'une multitude de nations. » Je te rendrai extrêmement fécond. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, toi et ta descendance après toi, dans toutes ces générations, comme une alliance perpétuelle pour être ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai à toi et à ta descendance après toi comme propriété perpétuelle le pays où tu séjournes en immigré, tout Canaan, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et ta descendance après toi, dans toutes ces générations. Voici mon alliance, telle que vous la garderez entre moi et vous, toi et ta descendance après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous ferez circoncire dans votre chair, ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous, dans toutes vos générations, sera circoncis, qu'il soit né dans la maison ou qu'il ait été acheté à prix d'argent à un étranger, à quelqu'un qui n'est pas de ta descendance. » On devra circoncire celui qui est né dans ta maison et celui qui a été acheté avec ton argent. Mon alliance dans votre chair sera une alliance perpétuelle. Le mâle incirconcis, celui qui ne sera pas circoncis, celui-là sera retranché de son peuple. Il a rompu mon alliance. Dieu dit encore à Abraham, « Quant à Sarai, ta femme, tu ne l'appelleras plus du nom de Sarai, ton nom sera Sarah. Je la bénirai d'elle aussi, je te donnerai un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. » Les rois de plusieurs peuples sortiront d'elle. Abraham tomba face contre terre et il rit, en se disant, « Naîtrait-il un enfant d'un homme de 100 ans ? Sarah aurait-elle un enfant à 90 ans ?» Abraham dit donc à Dieu, « Ô qu'Ismaël vive devant toi !» Mais Dieu dit, « Ce n'est pas ça. C'est Sarah, ta femme, qui va te donner un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle pour sa descendance après lui. » Pour ce qui est d'Ismaël, je t'ai entendu. Je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'extrême. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Mais mon alliance, je l'établirai avec Isaac, celui que Sarah te donnera l'année prochaine, à cette époque-ci. » Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Abraham prit Ismaël, son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait achetés avec son argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham. Il les circoncit ce jour même, comme Dieu lui avait dit. Abraham avait 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, son fils, avait 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce jour même, Abraham fut circoncis, ainsi qu'Ismaël, son fils. De même, tous les hommes de sa maison, nés dans la maison ou achetés à prix d'argent à des étrangers, furent circoncis avec lui. Alors on va bien sûr étudier ce chapitre, on verra aussi les chapitres avant, puisque le chapitre avant, le chapitre 16 et jusqu'au chapitre 20. Abraham, on le sait, est un exemple, c'est un exemple de foi. Un exemple de foi pour tous les croyants. Et la semaine passée, on a lu avec Sébastien le chapitre 11 du livre des Hébreux, et plus précisément les versets 8 à 11. Je vais le relire pour qu'on les ait en tête. Et ces versets nous montrent que Abraham est un exemple en matière de foi, une référence. Hébreux 11, versets 8 à 11. « C'est par la foi qu'Abraham obéit à un appel en partant vers un lieu qu'il allait recevoir en héritage. » Il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'exiler sur la terre promise, comme dans un pays étranger, habitant sous des tentes avec Isaac et Jacob, héritier avec lui de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré sa stérilité et son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une descendance, parce qu'elle tint pour digne de confiance celui qui avait fait la promesse. Donc Abraham est bien une référence en matière de foi. Et avec le roi David, Abraham est le personnage de l'Ancien Testament le plus souvent cité dans le Nouveau Testament. Mais si on regarde de plus près la vie et le comportement d'Abraham, même s'il a un modèle, on se rend compte que sa vie comporte des hauts et des bas. Alors bien sûr, il y a l'acte fondateur. L'acte fondateur, c'est quand Abraham quitte son pays, quitte sa ville, quitte sa famille et va poursuivre l'Éternel. Et cet acte fondateur est le point de départ de la relation entre Dieu et le peuple d'Israël. Et relation qui débouchera à son tour sur la relation entre Dieu et l'ensemble des chrétiens. Mais ça, on parlera de ça tout à l'heure. Un autre temps fort de la foi d'Abraham, de la vie d'Abraham, est le sacrifice d'Isaac que l'on verra la semaine prochaine. Le sacrifice n'a pas eu lieu, mais Abraham était prêt à le réaliser. C'était un grand, grand acte de foi. Et nous verrons encore une fois spécifiquement cet acte d'obéissance avec l'Éternel. Et entre ces deux actes, voilà le sacrifice d'Isaac, entre ces deux actes, c'est l'illustration que j'ai trouvée, la foi d'Abraham a connu des hauts et des bas, des moments de faiblesse. Et au cours des chapitres 12 à 15, ce qu'on a vu la semaine dernière, la relation avec Dieu, entre Abraham et Dieu, se met en place. Et dans le chapitre 16 à 20, c'est le développement de cette relation avec Dieu. Et surtout la dernière partie de ce chapitre, cet ensemble de chapitres du 16 à 20, se termine par la réalisation de la promesse avec la naissance d'Isaac. Et dans ces chapitres, Abraham est habité par un mélange de foi et aussi d'incrédulité, de respect fort, important envers Dieu, mais de doute, de confiance en l'Éternel, d'abandon, mais aussi de recherche de maîtrise. Et un verset illustre, je trouve, cette ambiguïté que vit Abraham entre la foi et l'incrédulité. Au chapitre 17, que l'on a lu, Dieu donc parle à Abraham, lui rappelle la promesse, lui rappelle aussi, lui dit l'alliance qu'il met en place avec Abraham. Et regardez le verset 17 de ce chapitre 17. Abraham tomba face contre terre. Il rit en disant, naîtrait-il un enfant d'un homme de 100 ans ? Et voyez, il y a cette ambiguïté chez Abraham. Il y a le profond respect, il se prosterne devant l'Éternel, mais il y a une petite voix qui lui dit, est-ce que franchement je peux avoir un enfant à mon âge ? Et voyez, cette ambiguïté-là dans le comportement d'Abraham. Il a une foi importante puisqu'il accepte de quitter sa terre, de quitter sa famille sur une parole de l'Éternel, mais aussi il est capable de rire quand l'Éternel lui dit « Tu auras un fils ». Et je trouve que c'est la raison, une des raisons pour laquelle la vie d'Abraham nous parle encore aujourd'hui. Parce que même si Abraham est une référence en matière de foi, c'est aussi, et surtout d'ailleurs, un encouragement, un exemple d'encouragement pour nous-mêmes. Abraham a une place extraordinaire dans le plan de Dieu pour dans l'humanité. Il est cité plusieurs fois comme exemple par l'apôtre Paul. Mais si on regarde le récit de sa vie, eh bien, il a connu des moments difficiles dans sa foi. Alors oui, Abraham a connu des actes de foi importants, des engagements extraordinaires, mais il a eu aussi des moments de doute et des moments de faiblesse. Ça lui est arrivé de mentir, ça lui est arrivé de ne pas croire à la promesse de l'Éternel. Et ce n'est pas pour ça que Dieu, que l'Éternel, s'est détourné de lui. Dieu lui a été fidèle. Et c'est parce que Abraham, fondamentalement, aimait le Seigneur. Il lui faisait confiance au point d'avoir tout quitté pour lui, d'avoir quitté sa ville, d'avoir quitté sa famille. Sébastien, la semaine passée, a lu le verset le plus important quand on parle de la vie d'Abraham. Et là, on le trouve dans un texte qui était dans le chapitre 15. Abraham mit sa foi dans le Seigneur, et il le lui compta comme justice. C'est par la foi en l'Éternel qu'Abraham fut déclaré juste, digne de relation avec le Seigneur. Ce n'est pas parce qu'Abraham respectait vraiment à la lettre la loi. Ce n'est pas parce qu'Abraham a fait des choses extraordinaires, même si ça a été le cas. Non, c'est parce qu'Abraham mettait sa confiance en l'Éternel. Et encore une fois, je trouve que c'est une des raisons pour laquelle la vie d'Abraham nous parle encore aujourd'hui, 4000 ans après. La vie d'Abraham, c'est 4000 ans à peu près par rapport à nous. Donc 4000 ans après, la vie d'Abraham, je trouve, continue de nous parler. Parce qu'on est aussi dans cette situation, nous. Ce n'est pas parce qu'on fait des trucs et des choses extraordinaires que Dieu nous aime. Ce n'est pas parce qu'on respecte à la lettre une loi. Non, c'est par la grâce. Comme on l'a prié plusieurs fois ce matin, c'est par la foi en Jésus-Christ que l'on est sauvé. Et ce qui est réjouissant, je trouve, c'est que l'Éternel n'a pas attendu qu'Abraham soit parfait pour s'appuyer sur lui, pour créer une alliance avec lui. Et je trouve que c'est réjouissant parce que c'est la même chose pour nous. Dieu n'attend pas que l'on soit parfait pour nous accueillir dans son peuple, pour nous accueillir dans sa famille. Et c'est un bel encouragement pour nous. En fait, les moments de faiblesse d'Abraham peuvent être résumés en une seule phrase, en une seule idée. Il cherche à donner un coup de main à Dieu pour la réalisation de la promesse. Vous voyez, il ne voit pas venir, donc il se dit, tiens, si je prenais un peu les choses en main, si j'aidais Dieu dans la réalisation de la promesse, 25 ans, 90-2015, c'est long, 25 ans. Donc Abraham se dit, tiens, si j'aidais un peu Dieu, et c'est le sujet de ma deuxième partie. Abraham a reçu deux promesses, on l'a vu la semaine dernière avec Sébastien. Le pays, la terre promise pour ses descendants, et le fait qu'il deviendra père d'une multitude. Dieu dit à Abraham, et Abraham le comprend bien, que la prophétie concernant le pays n'est pas pour tout de suite, que ce sont ses descendants qui en bénéficieront. La terre promise, c'est pour plus tard. Puisque Dieu dit, d'abord ce sont des descendants lointains qui bénéficieront de cette promesse, mais il le dit d'abord qu'ils passeront 400 ans dans un pays inconnu. Alors nous, on connaît la suite de l'histoire, donc on sait que c'est l'Égypte. Et ensuite, après cette période en Égypte, 400 ans, c'est la quatrième génération qui pourra entrer dans la terre promise. Donc, au fond, Abraham comprend que la réalisation de cette promesse n'est pas pour tout de suite. En revanche, il est impatient, il est très impatient de la réalisation de la deuxième promesse, celle d'avoir un enfant, d'être père d'une multitude, pour reprendre le texte. Et comme Sarah et Abraham ne voient rien venir, que Sarah manifestement ne tombe pas enceinte, que l'horloge biologique tourne, il décide de donner un petit coup de main à Dieu. Et c'est ce que l'on va lire dans le chapitre 16, des 6 premiers versets. Là où Sarah va dire, écoute, va voir Agar, ma servante. Donc les 6 premiers versets du chapitre 16, de la Genèse toujours. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne, du nom de Agar. Sarai dit à Abraham, « Puisque le Seigneur m'a empêché d'avoir des enfants, va avec ma servante, je te prie. Peut-être aurai-je un fils par elle. » Abraham écouta Sarai. Ainsi, après qu'Abraham eut habité 10 ans en Canaan, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna comme femme à Abraham, son mari. Il alla avec Agar et elle le fut enceinte. Quand elle se vit enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Alors Sarai dit à Abraham, que la violence qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi-même qui ai placé ma servante sur ton sein, et maintenant qu'elle se voit enceinte, je ne compte plus à ses yeux. Que le Seigneur soit juge entre moi et toi. » Abraham répondit à Sarai, « Ta servante est entre tes mains. Agis à son égard comme il te plaira. » Alors Sarai se mit à l'affliger, et Agar s'enfuit pour lui échapper. Sarai, ici, rend l'Éternel responsable de sa stérilité. Et finalement, la désobéissance d'Abraham commence par un mensonge, ou au moins une mauvaise compréhension de ce que dit l'Éternel, de sa volonté, de sa promesse. Et Sarai et Abraham sont dans une situation paradoxale. Ils seront parents de nombreuses générations, d'une multitude, encore une fois, mais pour l'instant, eh bien, pas d'enfants. Et en plus, ils considèrent que la stérilité de Sarah, eh bien, provient de l'Éternel. Ce qu'ils n'ont pas compris, eh bien, c'est que Dieu tarde à mettre en œuvre la promesse. C'est pas parce qu'il tarde à mettre en œuvre la promesse, c'est pas parce qu'il les a oubliés, c'est pas parce qu'il joue avec eux, mais il essaye de leur apprendre une notion qui est importante, c'est la patience et l'obéissance. Il veut aussi leur montrer que Dieu réalise toujours ses promesses, mais il les réalise en son temps, et que le temps de Dieu n'est pas forcément le temps de l'homme. Alors bien sûr, c'est facile à dire, hein, quand on a le recul nécessaire, nous, quand on connaît la suite de l'histoire, mais quand on est dans l'action, quand on est plongé dans l'action, être patient et obéissant, pas facile. 25 ans, c'est long. Et ici, la faiblesse d'Abraham consiste, au fond, à ne pas avoir pris position face à Sarai, quand elle lui propose de coucher avec sa servante. Puis, à la fin du passage aussi, que l'on a lu, quand Sarah renvoie Agar. Alors, on ne sait pas pourquoi ici, Abraham manque de foi par rapport à ce qu'il a déjà fait et par rapport à ce qu'il a accompli. Il manque de foi pour que la promesse se réalise. Est-ce que c'est la peur de prendre position? Est-ce que c'est son impatience? Est-ce que c'est au fond peut-être le plaisir de coucher avec la servante de sa femme? Est-ce que c'est la peur que la promesse ne se réalise pas? Peut-être qu'il y a un petit peu de tout ça. Mais ce qui est curieux, c'est qu'il est capable d'une grande foi pour quitter son pays, partir, pour quitter sa famille, mais là, il a un moment de faiblesse. Et là, c'est un sujet, la réalisation de la promesse de l'enfant, eh bien, c'est un sujet sur lequel il a du mal à faire confiance à Dieu. Et de la même manière, un petit peu plus loin dans sa vie, ça, c'est au chapitre 20 que ça se passe, eh bien, il va mentir. Il va mentir pour sa sécurité parce qu'il a peur qu'on le tue pour prendre sa femme. Et donc, il va dire, eh bien, c'est ma sœur. Là aussi, encore un manque de foi, preuve de faiblesse d'Abraham. Et ça veut dire que dans certaines circonstances, dans certaines situations, eh bien, Abraham, le grand Abraham lui-même, eh bien, a des difficultés pour faire confiance en Dieu, pour faire totalement preuve de foi, hein, et de s'abandonner à Dieu. Et pourtant, profondément, il aime le Seigneur. C'est ce qui va faire que Dieu va être aussi fidèle avec lui. Mais en fonction des situations, en fonction des circonstances, eh bien, il peut faire preuve de faiblesse, manquer de constance. Et je trouve que c'est encourageant pour nous, au fond, parce que qui ici peut se dire, moi, ma foi, elle est au top, toujours. Vous voyez, même à Abraham, au grand Abraham, eh bien, sa foi a eu des hauts et des bas, hein, comme nous. Alors, pendant tous ces chapitres, 16 à 20, et c'est mon sujet suivant, la relation entre Dieu et Abraham s'approfondit. C'est le chapitre 17 que l'on a lu. Et ce chapitre, eh bien, c'est une nouvelle étape, une étape marquante pour Abraham. D'abord, c'est la répétition des promesses. Dieu lui a dit beaucoup de fois ses promesses. Je te rends père, je te rends au présent, je te rends père d'une multitude de nations et je te donnerai le pays en possession. Et dans ce chapitre, eh bien, Dieu renforce le lien entre lui et Abraham. Tout d'abord, il lui donne un nouveau nom, Abraham, qui signifie Abraham, père élevé, à Abraham, père d'une multitude. Et au-delà du changement de nom, eh bien, Dieu change le destin d'Abraham. Et on sait que dans la Bible, les noms ne sont pas des noms donnés au hasard. Ils ont une signification en fonction du caractère ou en fonction du destin de la personne. Alors je m'arrête juste déjà sur le nom Abraham. Abraham, père élevé. Il est élevé. Le terme père déjà préfigure la situation future d'Abraham, d'être père d'une multitude. Et il est élevé. Ce n'est pas lui qui s'élève. C'est Dieu qui l'élève, Abraham, père élevé. Et je trouve que c'est une caractéristique importante de la personnalité d'Abraham et de la relation entre Dieu et Abraham. C'est Dieu qui élève Abraham. Quelque part, Abraham, lui, il n'a rien demandé à personne. Il ne recherche rien, il ne demande rien, il ne recherche rien pour lui-même. C'est Dieu qui l'a choisi et c'est Dieu qui l'élève. Et en quelque sorte, Abraham, en changeant de nom, eh bien change de statut. Il est responsabilisé. Il est toujours père, mais il devient père d'une multitude. Et entre Abraham et Abraham, il y a deux lettres en français. Et phonétiquement, Abraham ou Abraham, d'ailleurs je me suis moi-même sans doute plusieurs fois trompé en disant l'un pour l'autre, hein, phonétiquement c'est très proche. Mais le destin d'Abraham est très différent. Et je trouve que c'est à l'image de la manière dont Dieu fonctionne aussi avec nous quand il change nos vies, hein, quand on l'accepte. Nous sommes toujours la même personne, hein, nous on ne change pas de nom, nous sommes toujours la même personne, mais notre destin est très différent. Deux lettres ont changé, finalement, sont le symbole du changement du destin d'Abraham. Et donc le statut d'Abraham change, hein, symbolisé par le changement de nom. Et Dieu demande à Abraham là un signe d'engagement fort qui symbolise l'alliance entre Abraham, sa famille et Dieu. Un signe qui montre qu'Abraham ne peut plus revenir en arrière, et c'est la circoncision. Et son engagement est complet. Et tous les hommes de sa maison, de sa famille, passent par la circoncision. Et j'ai envie de vous préciser que je n'ai pas d'illustration pour cette notion, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est facile, mais bon, voilà. Mais dans ce chapitre 17, Abraham ne comprend toujours pas la promesse de l'Éternel, de la promesse de sa descendance. Parce que quand Dieu lui parle à nouveau de sa descendance, et il lui dit « oui, que vive Ismaël », il n'a pas compris que sa descendance ne passerait pas par Ismaël, mais par Isaac, par son fils, qu'il aura avec Sarah. Alors depuis le chapitre 12, Dieu rencontre plusieurs fois Abraham, ce qui donne à Abraham l'occasion de mieux connaître Dieu, de développer sa foi et la confiance. Et peu à peu, Dieu se révèle. Et finalement, Dieu en fait un véritable partenaire. Et un petit peu plus loin, au chapitre 18, verset 17, et on a une réflexion de Dieu, c'est assez rare, mais là on a une réflexion. Dieu se pose des questions. « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Alors qu'Abraham va devenir une grande nation, une nation grande et forte, et que toutes les nations de la terre se béniront par lui. Car je l'ai distingué afin qu'il ordonne à ses fils et à toute sa maison après lui de garder la voie du Seigneur en agissant selon la justice et l'équité. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Et Abraham devient un vrai partenaire de Dieu. Et à la fin du chapitre 18, la pression monte, si je puis dire, parce que la réalisation de la promesse approche. Et Dieu partage ses plans avec Abraham et Sarah. Cela va arriver l'année prochaine. L'année prochaine, tu auras un fils. Et au verset 10 de ce même chapitre 18, je reviendrai chez toi l'année prochaine, et Sarah, ta femme, aura un fils. Et là, c'est Sarah qui rit. Là, c'est autour de Sarah qui se dit, mais au fond, comment ce serait possible qu'à mon âge, j'ai un enfant. Il y a le verset suivant qui répond à son incrédulité. Y a-t-il rien, au verset 14, y a-t-il rien qui soit étonnant? Là aussi, je crois que j'ai pris un peu de retard. Je ne sais plus où j'en suis. Non, ça c'est après. Voilà, bon. Quand je parlerai de Galates, vous me direz, voilà, ça y est, t'y es. Le verset qui dit « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part du Seigneur ?» verset 14. Et ça me rappelle un joli verset, un très beau verset dans Nombre 11, verset 23. « Le bras du Seigneur serait-il trop court ?» Et ça aussi, c'est un bel encouragement pour nous. Hein, « Le bras du Seigneur serait-il trop court ?» Et c'est une nouvelle étape pour apprendre la confiance en l'Éternel. Et c'est vrai pour Abraham et Sarah, et c'est vrai pour nous. Alors il y a la réalisation des promesses. Voilà, on y arrive. Ça y est, ça arrive, enfin. Enfin, c'est la bonne diapo, mais surtout, enfin, l'enfant arrive. L'enfant de la promesse. Abraham avait 75 ans lorsqu'il a répondu à l'appel de Dieu et a quitté son pays. Il a 100 ans à la naissance de son fils Isaac, 25 ans à attendre. C'est comme si en 90, on vous a dit, il y a quelque chose qui va arriver dans ta vie. Et ça fait 25 ans que vous attendez, c'est aujourd'hui que ça se passe. C'est long, même si la notion du temps est différente, parce que les personnes vivaient bien plus longtemps, mais 25 ans a toujours fait 25 ans. Isaac est enfin arrivé. Et ce prénom signifie « rire ». Et c'est la troisième fois que le terme de « rire », que les personnages rient. Vous voyez ? Mais Abraham a ri, Sarah a ri également, mais c'était des rires presque d'amertume, des rires ironiques, Là, avec l'arrivée d'Isaac, eh bien, ce sont des rires de joie. Après toute cette attente, enfin, la promesse commence à se réaliser. Et plus tard, 60 ans après cette naissance, eh bien, Isaac engendrera Jacob, qui à son tour engendrera 12 fils, qui seront les 12 tribus d'Israël. Ça y est, la promesse commence à se réaliser. Mais la promesse ne portait pas uniquement sur la descendance directe d'Abraham, parce que Dieu parlait dans cette promesse d'une multitude de nations, et pas seulement des Hébreux. Et donc la promesse ne s'arrête pas au peuple d'Israël, mais prendra pleinement son sens avec la venue de Jésus-Christ. Car c'est avec la venue de Jésus-Christ que l'ensemble des nations de la terre auront la possibilité de se greffer sur le tronc de la descendance d'Abraham. Et cette promesse, même si elle était faite il y a 4000 ans, nous concerne directement aujourd'hui. Et je vous laisse deviner quel passage on prend. Galates 3, versets 6 et 9. Galates 3, versets 6 à 9. Et puis aussi le verset 14. Ainsi Abraham crut Dieu. Et cela lui fut compté comme justice. On retrouve ce verset. Et reconnaissez-le donc, ce sont ceux qui relèvent de la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, voyant d'avance que Dieu justifierait les non-juifs, en vertu de la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui relèvent de la loi sont bénis avec Abraham, l'homme de foi. Et ensuite, le verset 14, « Pour les non-juifs, nous, la bénédiction d'Abraham soit en Jésus-Christ, et que par la foi, nous recevions l'Esprit-Saint. » Nous sommes fils et filles d'Abraham par la foi que nous accordons à Jésus-Christ. La réalisation de la promesse commence avec la naissance d'Isaac et est complète avec la venue de Jésus-Christ et continue à se poursuit encore aujourd'hui, 4000 ans après. Lorsque quelqu'un se convertit aujourd'hui, il continue de réaliser la promesse faite à Abraham. Et je trouve que nous pouvons être émerveillés par les racines profondes qu'a notre foi. Notre foi est solide. Isaac est né en 2066 avant notre ère. Et nous sommes encore aujourd'hui les bénéficiaires de la promesse. Et je trouve que là aussi, ça nous donne l'occasion de nous émerveiller de la cohérence du plan de Dieu. Pour faire simple, il s'est passé à peu près autant de temps entre Abraham et Jésus, qu'entre Jésus et nous, pour nous donner un ordre de grandeur. Et depuis ce temps, le plan de Dieu n'a pas bougé, n'a pas varié. Dieu avait également, l'autre promesse, Dieu avait également promis un pays à Abraham, ce qu'on appelle bien sûr la terre promise. Et Dieu a dit qu'il donnerait à sa descendance, à la descendance d'Abraham, le pays de Canaan. Et ça, il le promet à peu près en 2100 avant notre ère. Et le peuple arrive en Canaan en 1400, c'est-à-dire 700 ans après. Et là aussi, voyons, la promesse a mis 700 ans avant de se réaliser. Abraham n'était plus là depuis longtemps, bien sûr. Mais vous voyez, la cohérence et la constance du plan de Dieu, la cohérence du plan de Dieu pour l'humanité. Alors après avoir vu les promesses faites à Abraham et leur réalisation, je trouve que c'est intéressant aussi de se poser la question, quelles sont nos promesses? Quelles sont les promesses que Dieu m'a faites à moi? Et je crois qu'elles sont également au nombre de deux. Alors on pourrait discuter, mais deux principales. Il a formulé Dieu aussi des promesses pour chacun d'entre nous, et elles concernent tout le monde. Et la première promesse est une réalisation qui se réalise tout de suite dès qu'on se convertit, lorsque l'on accepte Jésus comme Sauveur et Seigneur. Alors je cite deux versets. Romains 8, qui est un verset connu que j'ai un peu résumé là, « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu ». Un autre aspect de cette même promesse, « Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Voilà une des promesses que Dieu nous fait à nous, chrétiens, aujourd'hui. Jésus est avec moi tout le temps et il m'aime. Et c'est la promesse que rien ne pourra me séparer de lui. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que je vais vivre le paradis sur terre, que je vivrai que des choses faciles. Et d'ailleurs, parfois, quand je m'engage avec le Seigneur, ça m'oblige et ça me demande des choix douloureux. Mais vous voyez, cette année, je fête mes 30 années de vie avec le Seigneur. 30 ans. Ça fait quand même, Je me suis converti à 2 ans, c'est pour ça. Donc, voyons, en 30 ans, j'ai pu vivre des difficultés, des deuils et aussi des joies, bien sûr. Mais je peux témoigner que jamais, jamais, à aucun moment, le Seigneur m'a abandonné et qu'il a réalisé chaque jour cette promesse. Je serai avec toi tous les jours, et rien ne pourra me séparer de ton amour. La deuxième promesse que Dieu me fait est celle du salut. Alors bien sûr, par définition, cette promesse ne se réalisera qu'après ma mort. Hein. Mais voilà, c'est une promesse que Dieu nous fait aussi. La promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Hein. J'ai failli prendre Jean 3,16, puis je me suis dit non, c'est trop banal, tout ça, mais... Ça arrive doucement, mais pourtant, c'est un verset qui est magnifique, Jean 3,16. J'étais content que Jean-Yves le prenne, parce que c'est un beau complément avec ce verset-là. Hein. Dieu nous a tant aimés. C'est selon moi, avec la promesse du retour du Christ, hein, les promesses principales que Dieu nous adresse à chacun d'entre nous. Abraham nous a montré l'exemple de la foi, avec ses hauts, avec ses bas, ses ambiguïtés aussi, ses chutes. Hein. Mais fondamentalement, il aimait le Seigneur. Il lui faisait confiance, il avait foi en les promesses de l'Éternel. Quand Abraham a vu la promesse de la naissance d'Isaac se réaliser, eh bien, alors je pense qu'il était prêt à aller plus loin avec le Seigneur. Quand une promesse se réalise, eh bien, on se dit que les autres vont aussi se réaliser. Et aller plus loin, justement, ça va être le sacrifice d'Isaac. Et c'est ce qu'on verra encore une fois la semaine prochaine. Et c'est vrai pour nous. Quand je vois ce que le Seigneur a fait pour moi, dans mon cas, dans ces 30 années, eh bien, je ne peux que lui faire confiance pour la suite. Alors, ça ne veut pas dire... Enfin, je sais que je vais bien sûr aussi vivre des difficultés, voilà, mais je sais que le Seigneur sera toujours avec moi. Et bien sûr, du coup, j'ai envie de lui faire confiance pour la suite. En conclusion, eh bien, ce que j'apprends de la vie d'Abraham est que le Seigneur n'a pas attendu qu'Abraham soit parfait pour créer avec lui une alliance. Et ça, c'est drôlement bien pour moi. Parce que c'est pareil pour moi. Le Seigneur n'attend pas que je sois parfait pour me dire « Viens, je t'accueille dans mon peuple, je t'accueille dans ma famille. » Et avec la vie d'Abraham, j'apprends aussi eh bien, que Dieu répond à ses promesses. 2000 ans, enfin, moins Isaac, 25 ans. Aujourd'hui, les promesses se réalisent toujours. Et 700 ans pour la promesse de la terre de Canaan. Et par Jésus-Christ aussi, eh bien, je deviens descendant d'Abraham. Et Dieu m'accueille dans son peuple. Et pour terminer, un dernier passage dans Éphésiens 2, versets 11 et 13. « Vous qui étiez autrefois les non-juifs dans la chair, qui étiez traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis, et qui le sont dans la chair et par des mains humaines, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Dieu, encore une fois, m'a permis d'intégrer sa famille, son peuple, parce qu'il m'aime. Et les deux promesses que j'ai dites, à la promesse de salut et la promesse qui sera toujours là, eh bien finalement n'en font qu'une, hein, et que la vie éternelle commence bien sûr dès que je me convertis. Et la promesse est que Jésus sera avec moi, avec chacun d'entre nous, tous les jours, quoi qu'il arrive, et rien ne pourra me séparer de lui. Amen.